Unitaire, au cœur de l'action des défenseurs de l'environnement. Une émission de Michel Forst et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour. Le 22 février 2024, après avoir reçu de nombreuses informations préoccupantes quant aux méthodes des forces de l'ordre, le rapporteur spécial sur les défenseurs de l'environnement s'est rendu dans le Tarn, à Saïx, auprès des écureuils. Alors les écureuils, ce sont ces militants qui sont perchés dans les arbres pour protéger un bois classé dans la catégorie à fort enjeu écologique. Dans cet épisode, Michel Forst revient sur ses constatations. C'est également l'occasion de montrer les voies qui s'offrent aux défenseurs et la façon la plus efficace de les combiner. Le tracé de l'autoroute A69 prévu entre Castres et Toulouse dans le Tarn conduirait à détruire des bois classés à fort enjeu écologique. Les militants écologistes se mobilisent de diverses façons, notamment par la voie juridictionnelle. Mais certains, surnommés les écureuils, sont perchés dans les arbres pour éviter leur abattage. L'arrêté d'autorisation environnementale du 1er mars 2023 imposait aux concessionnaires diverses conditions préalables au déboisement ainsi que la préservation de la faune. Le préfet n'a pas produit de document qui permettrait de vérifier que cette société privée les aurait respectés. En revanche, le concessionnaire a déjà commencé le déboisement et bénéficie pour cela de la protection des forces de l'ordre qui interviennent pour déloger ou tenter de déloger les militants. Des poursuites pénales ont également été lancées contre des militants du chef d'opposition par violence ou voie de fait à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique. Les premières décisions du tribunal correctionnel de Toulouse relaxent les militants. Michel, pourrais-tu nous dire déjà pourquoi les écureuils entrent dans la définition des défenseurs ?
Alors peut-être, je vais commencer par dire que je ne fais rien sans d'abord avoir été saisi. Et donc j'avais effectivement reçu plusieurs messages inquiétants, montrant le paysage dans lequel opéraient les écureuils, avec des témoignages qui venaient corroborer des informations reçues par des vidéos, des photos. Mais encore une fois, j'ai attendu d'avoir une plainte formelle de la part d'un des militants pour pouvoir intervenir, et c'est sur la base de cette plainte que j'ai décidé de me rendre à Toulouse pour passer 2 jours, avec l'idée de recueillir des témoignages de première main, c'est-à-dire de moi-même entendre de la bouche des écureuils ce qu'ils avaient raconté, de voir de mes yeux leurs vidéos, leurs photos, et puis d'écouter un peu ce qu'ils avaient à me dire sur la manière dont ils percevaient la situation. Et bien évidemment, comme c'est le cas dans toutes les missions officielles, la deuxième partie de la mission consistait à rencontrer les autorités sur place pour comparer les récits des uns et des autres et me faire ma propre opinion.
Alors en quoi sont-ils des défenseurs ?
Alors ce sont des défenseurs tout simplement parce qu'ils répondent à la catégorie des Nations Unies. Donc est un défenseur, on l'a déjà rappelé plusieurs fois à ce microphone, toute personne, tout individu, groupe, organe de la société qui protège et qui promeut les droits humains. Et en 2021-22, 2 résolutions complémentaires aux Nations Unies ont reconnu le droit à un environnement sain comme étant un droit humain et par conséquent ça renforce encore la définition des défenseurs. Et donc bien évidemment ce sont des personnes qui s'opposent de manière non violente à quelque chose qu'ils estiment illégitimes, sont des militants environnementaux, des militants climatiques, donc ils répondent parfaitement à la définition. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me rendre sur place.
Alors parmi les nombreuses informations préoccupantes que tu as reçues concernant ces militants, est-ce que tu pourrais nous dire quelles étaient les menaces dont ils étaient la cible ?
Oui, alors peut-être d'abord pour brosser le tableau, donc je suis arrivé sur place un matin, donc il y avait les forces de l'ordre, le colonel de gendarmerie était là, celui qui préside aux forces de l'ordre, qui m'a reçu, qui m'a expliqué les conditions dans lesquelles lui pensait que je pourrais intervenir en matière de sécurité. Moi, j'ai clairement dit que je voulais monter dans les arbres pour rencontrer les écureuils, en dehors de la présence des écureuils, des forces de l'ordre. Et donc, ça a été assez compliqué d'avoir une nacelle qui permette de me monter jusqu'en haut. Une nacelle un peu fragile, je dois dire, donc j'étais un peu pas très rassuré. Et c'est vrai que c'est sur cette nacelle que les gendarmes opèrent, et donc ça met aussi un peu en danger la vie des écureuils s'ils sont descendus par ces nacelles. Deuxième élément, je voulais leur monter de la nourriture, parce qu'ils étaient en fait à court de nourriture, et la gendarmerie m'a dit « Tant qu'on n'a pas l'autorisation du préfet, vous ne pourrez pas donner de nourriture. » Et donc j'ai demandé au préfet l'autorisation, j'ai téléphoné moi-même à la directrice de cabinet, qui m'a dit « Je demande au préfet », qui n'a jamais répondu, donc la réponse était « Non ». La seule chose que j'ai pu avoir avec moi, c'est des médicaments, parce qu'une des écureuils était malade, en fait. Elle a besoin d'une pompe à insuline, elle a besoin de piles pour recharger sa pompe à insuline, donc j'ai pu monter la pompe à insuline. Et arrivé dans les arbres, ils m'ont raconté, en fait, comment depuis, à l'époque, 3 semaines, ils étaient harcelé par les forces de gendarmerie. Alors si on prend les choses dans l'ordre, donc une violence verbale avec des menaces très fortes de la part des CRS et des gendarmes parfois, menaces de viol pour les femmes avec des propos tout à fait déplacés, sexistes, des menaces effectivement insoutenables. J'ai parlé avec une écureuil qui m'a donné des exemples très clairs des mots qui ont été employés par les gendarmes. Et puis alors ces nuages de gaz lacrymogène qui en fait entouraient les arbres dans lesquels sont les écureuils. Deux d'entre eux m'ont raconté que le soir avant de partir, ils avaient le sentiment que les gendarmes vidaient leur stock de grenades lacrymogènes en visant le plafond, le ciel, pour directement envoyer les grenades lacrymogènes sur les écureuils, ce qui était extrêmement dangereux, contraire en fait aux instructions données. Et puis,
contraire aux règles d'engagement, mais pas forcément aux instructions données.
Oui, bon, j'ai le sentiment en fait que le colonel était de bonne foi, donc effectivement il y a eu des débordements de la part de ces hommes, voilà. Et puis aussi, et ça c'est assez déplacé en fait, la nuit, à plusieurs reprises, pendant au moins 3 jours, les écureuils m'ont montré des vidéos qui montrent les forces de sécurité. Alors on ne voit pas si c'est des gendarmes ou des CRS qui utilisent des lumières stroboscopiques très violentes pour les aveugler. On entend un tintamarre de klaxons, de pétards, de bruits violents pour les empêcher de dormir. C'est clairement en fait une privation de sommeil. Ils ont essayé d'obtenir de la nourriture, ils n'ont jamais pu avoir de la nourriture.
Pour l'eau et pour l'eau potable.
Pour l'eau, le préfet a donné instruction aux gendarmes de laisser les écureuils avoir accès à l'eau potable, mais ce sont les ouvriers de la société d'exploitation qui, pour protester contre le fait que leur travail était perturbé par les écureuils, qui ont percé les bidons d'eau. Et donc les écureuils ont eu des bidons d'eau.
Sous le regard des forces de l'ordre.
Sous le regard des forces de l'ordre.
Qui
n'ont rien fait, des bidons d'eau percés. Donc, voilà, alors je passe sur toute la scénographie autour, où les militants, essayant de s'approcher à chaque fois pour apporter de la nourriture, étaient repoussés par les gendarmes. Un mot sur les médias, puisqu'en fait, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de médias, beaucoup de télévision, beaucoup de photographes qui essayaient de prendre des photos. Et les médias étaient laissés dans un ravin à côté de la route, sans possibilité de voir ce qui passait du côté de la route, au prétexte que les gendarmes protégeaient la scène dans laquelle ils devaient intervenir. Voilà donc un paysage très, très préoccupant, très lourd, des écureuils très, très inquiets, très, très menacés.
Et tu as pu parler avec des journalistes qui justement étaient entravés dans leur devoir d'informer ?
Je l'ai fait après avoir rencontré le préfet et son équipe, parce que je voulais, dans un premier temps, avoir toutes les informations de la part du préfet, donc que j'ai pu rencontrer pendant 1h30. Il était entouré de toute son équipe, y compris le collègue de gendarmerie. Et donc j'ai fait état de mes griefs, de mes observations, en demandant des commentaires de la part des autorités locales.
Qu'ont-ils répondu sur la privation de sommeil ?
Alors d'abord, le préfet a rappelé que ce sont des voyous.
Les militants.
Des militants violents, contrairement à ce que j'ai pu dire. Il m'a rappelé qu'ils ont envoyé des cocktails Molotov sur les outils, sur les gendarmes, etc. Mais ce ne sont pas les écureuils qui l'ont fait, ce sont les militants autour. Donc rien à reprocher aux écureuils en la matière. Donc, mon sujet était vraiment les écureuils en eux-mêmes. Donc, sur la privation de sommeil, le gendarme m'a dit qu'effectivement lui-même a reçu la vidéo. Il a vu la vidéo, il a donné instruction à ses hommes, y compris au CRS, de ne plus utiliser des méthodes qui sont contraires aux instructions qu'ils ont reçues. Il m'a dit qu'effectivement, lui n'avait pas autorité pour donner de la nourriture aux écureuils, que c'est le préfet qui décidait, mais il semblait au moins un peu regretter que les choses se passent de cette manière-là. Donc, et c'est à l'issue de mon entretien avec le préfet, le gendarme, que j'ai décidé de rendre l'affaire publique par un communiqué de 2 pages qui rassemble au fond les principales constatations et qui formule des observations et des recommandations adressées aux autorités françaises.
Alors ça, c'est prévu par le code de conduite des rapporteurs spéciaux, mais c'est quand même peu fréquent de rendre public immédiatement. Quels ont été les motifs ?
Alors, les motifs, c'est qu'on est très clairement en face d'une violation de plusieurs textes internationaux, notamment l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Qui prohibe les actes cruels, inhumains, dégradants.
Voilà. Or, la privation de
sommeil, l'interdiction de la torture.
La privation de nourriture, la privation d'eau potable, c'est clairement des actes qui sont contraires à la Convention, sans compter tous les autres traités internationaux que la France violerait si elle continuait ses agissements. Entre-temps, en fait, après avoir parlé aux avocates, les avocates ont fait également donc un appel à une mesure particulière de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'on appelle la, une mesure de mesure urgente, mesure provisoire, qui permet à la Cour européenne de décider immédiatement de mesures de protection dès lors que la vie est en danger. Donc il y a toute une batterie, en fait, à la suite de mon communiqué, qui a permis de lancer différentes procédures sur le plan européen et international.
Et dans tes préconisations, tu as recommandé qu'il y ait des enquêtes, hein, et éventuellement des sanctions qui soient prises contre les forces de l'ordre qui ont violé les droits les plus fondamentaux des écureuils. As-tu des informations sur les suites qui ont été données à cette demande en particulier ?
Alors bien évidemment, encore une fois, ce sont des allégations qui ont été transmises au gouvernement, pas des accusations. Donc j'ai demandé que mes allégations étaient fondées sur la base de documents, de récits que j'avais entendus, que j'avais enregistrés. Et j'ai demandé qu'une enquête, c'est normal, soit diligentée pour vérifier si les allégations envoyées étaient sérieuses et qu'éventuellement des sanctions soient prises contre celles et ceux qui n'auraient pas respecté les directives données par le colonel de gendarmerie. Un mot peut-être sur les médias pour rappeler que les médias étaient également empêchés d'avoir accès à la scène. Et c'est une question que j'ai posée aux gendarmes, qui m'a expliqué en fait que si par le passé les médias étaient autorisés à se rendre sur la scène, ainsi que les observateurs de la Ligue des droits de l'homme, c'est parce qu'on est dans le schéma de maintien de l'ordre qui prévoit effectivement que les médias ont la possibilité d'assister à toute opération. Mais que là, en la matière, juste avant mon arrivée, il y a une décision du procureur qui change un peu la donne sur le plan judiciaire, puisqu'en fait, on est une opération judiciaire, et donc le périmètre est défini d'une autre manière que le périmètre traditionnel de maintien de l'ordre. Et donc, il semblerait que, dans le cadre de cette opération judiciaire, les médias aient été exclus de pouvoir avoir accès à la scène. Ils ont protesté à plusieurs reprises, et je crois qu'ils ont eu gain de cause depuis, mais en tout cas, au moment où j'y étais, rien n'était possible, pas de possibilité de filmer. Et donc c'est uniquement parce qu'ils ont monté sur une tour, ils ont pu me filmer moi sur une nacelle par longs écureuils.
Et quel était le cadre juridique de cette information, de cette enquête ou de cette enquête judiciaire qui permettait d'exclure la presse du périmètre en question?
Alors je n'ai pas eu d'information de la part du procureur sur le périmètre judiciaire. Je sais que c'est une question que les avocates des écureuils ont posé. Elles n'ont pas eu de réponse à la question qui a été posée, ce qui est assez étonnant, qu'on ne puisse pas avoir d'informations sur le périmètre et que seul en fait le colonel de gendarmerie ou le préfet décide du périmètre d'une opération judiciaire sans qu'on en soit informé.
Et pendant ce temps-là, le concessionnaire pouvait continuer à déboiser, défricher, etc.
Alors le concessionnaire était toujours là, en fait, c'était compliqué parce que les écureuils sont dans les arbres, donc il ne peut pas couper les arbres. Donc les gendarmes font attention à ce que rien n'arrive de grave aux écureuils, notamment qu'ils ne tombent pas, parce que s'ils se brisent le cou ou un bras ou une jambe, là la responsabilité de l'État est engagée. Donc,
il y a eu aussi des allégations comme quoi des feux avaient été déclenchés à la base de certains arbres par les forces de l'ordre.
Alors, pas directement des feux, en tout cas, j'ai vu des vidéos qui montrent des forces de l'ordre, c'est la nuit, donc on ne sait pas si ce sont des gendarmes ou des CRS, qui déversent des bidons d'essence au pied des arbres et qui menacent d'enflammer les arbres en disant qu'on va vous faire griller, etc. Blablabla. Donc un discours extrêmement effrayant. Il y a eu à côté un incendie qui a été provoqué de ballots de paille, et donc des souffleurs soufflaient les braises vers les arbres, avec le risque de mettre le feu aux arbres. Donc une situation vraiment de mise en danger de personnes qui manifestent, encore une fois, sans violence, et qui demandent simplement le respect du droit international des droits de l'homme.
Alors les militants, en tout cas certains d'entre eux, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour l'infraction de opposition par violence ou voie de fait à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique. Le tribunal a souligné leur caractère non violent, ça ressort très clairement de la décision, donc ils sont considérés comme pacifiques. Le tribunal a également reconnu la dimension politique et militante de leur action dans, je cite, le but d'alerter sur un sujet d'intérêt général, à savoir le dérèglement climatique. Le tribunal a relevé que les militants entendaient, je cite, porter un message sur les dangers que représente ce projet d'infrastructure et le caractère illégal de la coupe d'arbres. Ils ont été relaxés. Quel regard portes-tu sur les poursuites judiciaires menées à l'encontre des défenseurs de l'environnement ?
Alors, elle se multiplie malheureusement, donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai publié un gros rapport après une enquête dans plus de 20 pays européens et qui montre que sur le plan européen, en fait, on a de vraies inquiétudes à avoir sur le plan judiciaire parce que les poursuites non seulement se poursuivent, si je puis dire, mais les peines s'aggravent. Donc on a en Grande-Bretagne 27 mois de prison ferme pour avoir bloqué un pont, 6 mois pour avoir bloqué un accès à un aéroport. En Allemagne aussi des peines assez fortes. En France, on n'a pas des peines très lourdes contre les militants du climat, mais néanmoins, donc pas de peine de prison ferme, des jours amendes, des travaux d'intérêt général. Mais néanmoins, on sent qu'il y a une pression sur le plan judiciaire.
Déjà, le fait d'être sous le coup d'une procédure, de devoir aller s'expliquer devant un tribunal, de prendre un avocat, c'est extrêmement angoissant, ça mobilise de l'énergie. Est-ce qu'on peut assimiler ces procédures qui se multiplient dans le cadre français et qui renvoient aussi au fait que quand tu es arrivé sur place, il y avait une procédure judiciaire enclenchée peut-être sur le fondement d'une opposition avec voie de fait à des travaux jugés d'utilité publique. Est-ce qu'on peut imaginer que cela rentre dans le cadre des SLAP, des procédures Bayon, toutes ces procédures qui visent à décourager?
Il faut regarder ça avec précaution, avec attention, parce que ça n'est pas le cas pour toutes les procédures engagées. Donc la vraie difficulté, c'est qu'effectivement, il y a une infraction à la loi. Donc le militant décide délibérément, dans le cadre de la procédure, d'enfreindre la loi pour mener son action. Et donc il est entre guillemets normal qu'il y ait une poursuite judiciaire dès lors que la loi est enfreinte. Il appartient après aux autorités judiciaires de décider si oui ou non et relaxe. Mais donc c'est pas forcément une procédure Bayon. Donc je serai assez prudent sur l'utilisation de ce terme.
D'accord. Et au-delà de la saisine de ton mandat, plusieurs autres voies ont été utilisées par les défenseurs pour se protéger. Tu as mentionné notamment la requête devant la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 39 qui prévoit donc des mesures provisoires en cas de situation urgente et de violation urgente des droits les plus fondamentaux. Quelle articulation en fait s'est opérée entre ces diverses actions qui ont été menées sur le volet judiciaire, médiatique, politique?
Alors chacun mène son action ou ses actions de la manière dont il l'entend. J'ai bien sûr des contacts avec les avocats pour parler avec eux et voir avec eux quelles sont les actions qu'eux envisagent. Mais encore une fois, chaque action est individualisée. C'est le principe même de l'action que je mène en tant que rapporteur spécial. Au cas par cas, on décide de quel type d'action mener. Peut-être un mot, si on a le temps, sur la Cour européenne, pour dire que dans le cas de cette procédure, article 39, la Cour, comme c'est normal, pose des questions aux deux parties. Elle demande aux plaignants si effectivement la privation de nourriture continue, la privation de sommeil, la privation d'eau. Et elle demande au gouvernement français si, oui ou non, il y a eu privation de sommeil, privation d'eau, blablabla. En fait, on pose les mêmes questions deux. Et moi, je dois dire que j'étais assez stupéfait, pour ne pas dire choqué, de lire la réponse de la France, qui, de mon point de vue, est un gros mensonge, pour dire les choses de manière un peu polie, sinon plus, peut-être un outrage à la Cour européenne, dans la mesure où, dans la réponse de la France, on lit une phrase surprenante qui dit que, durant la nuit, effectivement, les écureuils ont pu être éclairés de manière brève par les forces de l'ordre, mais uniquement pour vérifier qu'ils ne risquaient pas de tomber de leur arbre. Alors que moi, j'ai le récit du colonel de gendarmerie qui me dit que, précisément, il a demandé à ses ordres d'interrompre des actes qu'il considère comme étant contraires aux pratiques normales du maintien de l'ordre. Donc ce gros mensonge m'interroge sur la manière dont la France coopère avec les instances internationales.
Et quelle est la bonne foi dans la réponse qu'elle apporte à la Cour? Alors, il y a eu donc une dimension médiatique, puisque la presse s'est fait écho et de ta visite, mais avant aussi de la situation, et depuis continue à rendre compte de la situation des écureuils sur place. Il y a au niveau juridictionnel, outre la Cour européenne des droits de l'homme, il y a aussi un référé mesure utile qui est devant la Cour. Il y a une contestation aussi de la légalité, donc dans le cœur de l'action, de la légalité de la coupe des arbres, compte tenu des espèces qui sont dans cette zone-là et qui doivent pouvoir procéder à une nidification. Il y a aussi une voie politique. On a vu certains responsables politiques au Parlement européen s'appuyer sur tes constatations. Comment tu vois l'articulation entre toutes ces voies-là? Est-ce qu'elles se renforcent les unes les autres? Est-ce qu'il y a un risque de rivalité, de rentrer en concurrence? Est-ce que ça fait progresser? Est-ce que c'est efficace? Quel est ton regard?
Moi, j'ai le sentiment que les les choses sont plutôt efficaces. Non pas qu'il y ait une concertation, il n'y a pas une campagne qui est menée de manière concertée entre tous les acteurs politiques, juridiques, les Nations Unies. Chacun joue son rôle, joue sa partition, se fait écho les uns aux autres. Ce que je dis, ce que j'écris est repris par les avocats, est repris également par le Parlement européen, donc publiquement. Donc tout ça donne un écho médiatique très fort. Ça exerce effectivement une pression légitime sur les autorités françaises. On verra de quelle manière elles réagissent. Mon combat est un peu différent des autres, puisqu'en fait je me prononce pas sur la 69 lui-même, je prononce simplement sur le simple respect du droit de manifestation, qui n'est pas à l'heure actuelle garanti par la France, et c'est là-dessus que je me prononce, mais c'est dans le cadre effectivement d'une opération qui est, on va le dire, largement contestée par beaucoup d'acteurs sur le plan local, sur le plan français et sur le plan international.
Oui, il y a même une commission, une mission d'information au Parlement qui travaille aussi sur le projet en lui-même, donc on voit que ce sujet de la 69 peut être pris par de nombreux aspects et que tout cela draine quand même des inquiétudes sur aussi le fait que les forces de l'ordre sont au service du concessionnaire. Comment les forces de l'ordre sont sensibilisées au fait qu'elles doivent respecter les droits les plus fondamentaux des militants ?
Alors c'est une question qu'effectivement il faut poser aux autorités françaises en fait, hein, devant la pratique que j'ai pu constater en fait, quelle formation est donnée à l'heure actuelle aux forces de l'ordre sur le respect du droit de manifestation, du droit de la liberté d'expression. Ça m'interroge également sur le fait qu'il y a probablement sur le plan de la formation des magistrats un effort à faire pour que eux, dans leur motivation de décision judiciaire, ils puissent éventuellement invoquer les dispositions du droit international des droits de l'homme, non seulement la Convention européenne, mais également la Convention d'Aarhus sur laquelle se fonde mon mandat, qui est une convention juridiquement contraignante pour la France et qui rappelle dans son article 3.8 que les États ont l'obligation de protéger les défenseurs de l'environnement tels qu'ils sont définis par la Convention et les Nations Unies. Et à l'heure actuelle, ces militants sont malmenés sur le plan européen, y compris par la France. Il y a un vrai travail à faire qui devrait interroger la France sur le fait qu'elle ne respecte pas ses grands engagements. Ce qui m'interroge, c'est que la France fait beaucoup sur le plan international, sur la protection des défenseurs, mais elle n'arrive pas non seulement à protéger les défenseurs sur son propre territoire, mais on le voit en l'occurrence qu'elle met en danger des défenseurs, ce qui est en fait contraire, à mon avis, à la stratégie que la France devrait déployer sur la question des défenseurs.
Ce que je retiens de cet échange avec Michel Force, c'est qu'à travers cet exemple des écureuils qui s'opposent au chantier de la 69, on voit se déployer les méthodes de travail, mais aussi la puissance de frappe en fait, du mandat contraignant qui est le mandat de rapporteur spécial sur la situation des défenseurs de l'environnement. À travers cet exemple, on voit aussi qu'un pays comme la France est en déficit de cohérence entre ce qu'il prône à l'extérieur, les conventions qu'il ratifie, et ce qu'il fait dans ses pratiques à l'intérieur. Michel Force le pointait, il y a non seulement un défaut de protection des défenseurs de l'environnement que sont les écureuils dans cette affaire de la 69, mais au-delà de ce défaut de protection, il y a vraisemblablement une mise en danger qui sera sûrement caractérisée prochainement par les juridictions saisies, une mise en danger des personnes elles-mêmes hein, qui pourtant défendent un intérêt plus grand qu'eux, un intérêt général. Et puis, ce que je retiens également, c'est quelque chose d'assez réjouissant, c'est que finalement la combinaison d'une interpellation médiatique, un relais politique et une bonne compréhension de la complémentarité entre les mécanismes des Nations Unies et les juridictions compétentes, que ce soit au niveau national, européen, voire international, tout cela concourt à mettre énormément de pression sur les gouvernements, même ceux qui se montrent tout à fait réfractaires. Merci beaucoup Michel Forst.
Merci. Et dans le prochain épisode, nous écouterons Gaïa Fèvre du réseau Action Climat qui nous parlera du rôle de la société civile et des ONG.
Cette émission a été préparée et présentée par Michel Forst et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio. Vous pouvez écouter librement toutes nos émissions sur le site d'Amicus Radio et vous abonner à ce podcast sur les plateformes d'écoute pour ne manquer aucun épisode.